franceinter.fr.
La France, le pays d'Europe le plus touché par le frelon asiatique, à la une de la science aujourd'hui.
C'est la terreur des abeilles françaises, le frelon asiatique. Il décime les ruches pour nourrir ses propres larves. Le frelon asiatique a connu une expansion fulgurante en France. Il est arrivé en 2004 dans le Lot-et-Garonne, sans doute dans un conteneur de poteries importées de Chine.
Et l'implantation de ce frelon en France vient d'être analysée et modélisée par une équipe de chercheurs français. Des travaux publiés la semaine dernière dans The Journal of Applied Ecology que vous signez, Éric Darrouzet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes maître de conférence à l'Institut de recherche sur la biologie des organismes à l'Université de Tours. Depuis 2004, donc, vous traquez les nids de frelons avec l'aide des habitants. Quelle est justement l'aire de répartition de ces insectes, de ces grands insectes prédateurs, à l'heure où nous nous parlons ?
Eh bien, leur aire de prédation, c'est l'Europe. En fait, sur, comme vous avez dit au tout début, c'est arrivé dans le Lot-et-Garonne en 2004. À l'heure actuelle, on a à peu près plus de 75% du territoire national qui est colonisé.
Ah oui, quand même.
Ah oui. Et c'est plus un simple problème français, parce qu'il y a d'autres pays européens qui sont touchés. On a le nord du Portugal, le nord de l'Espagne, le nord de l'Italie. Et l'animal a été observé également en Belgique et en Allemagne.
Comment est-ce qu'on repère un nid de frelons asiatiques, Éric Darrouzet ?
Ah, malheureusement, par les lois du hasard.
C'est pas facile.
C'est-à-dire qu'en fait, les gens tombent dessus. Alors souvent, ça peut poser problème si la colonie dans une haie et les gens sont en train de tailler leur haie. Ou alors, on voit les arbres à l'automne, quand les feuilles des arbres tombent, et les gens repèrent des nids au sommet des arbres sans l'avoir vu au préalable.
Comment
pour l'instant, on
n'a
pas de moyens réels pour les repérer, on va dire, de manière efficace.
Comment est-ce que vous expliquez cette énorme progression depuis 2004 ? Vous notez 80 km par an, c'est très important comme chiffre.
Ben c'est lié tout simplement aux capacités de vol de l'animal, en termes de vitesse, de durée de vol et des capacités de vol sur une journée ou plusieurs jours. C'est lié à ces capacités-là, c'est lié également à la biologie de l'animal, c'est-à-dire des niveaux de reproduction assez élevés.
Et donc vous vous servez de la population pour vous aider à traquer tous ces frelons, c'est ça ?
Alors c'est pas moi, ça c'est plutôt des collègues parisiens. Il y a un site qui est le site de l'INPN qui demande aux gens, dès qu'ils repèrent un nid, c'est de prendre en photo le nid ou prendre en photo les insectes et de les envoyer sur ce site internet de l'INPN, où là ça permet d'avoir un suivi, si vous voulez, annuel de l'expansion de l'espèce. Alors ensuite, nous, on travaille avec la population pour d'autres aspects. Ça peut être pour étudier l'impact du frelon sur les ruchers, par exemple. On va travailler avec les apiculteurs en ce sens. Ou parfois, par exemple ici autour de l'université à Tours, donc en Indre-et-Loire, dès que quelqu'un repère un nid qui est facilement accessible, c'est de nous contacter. Et nous, on peut venir récupérer la colonie vivante pour travailler au laboratoire, pour d'autres études en biologie en l'occurrence.
Vous parliez du rucher, mais est-ce qu'on mesure correctement l'impact réel sur toute la biodiversité de ce frelon qui est un gros prédateur ?
Alors le frelon asiatique, c'est un prédateur généraliste et opportuniste. C'est-à-dire que l'animal va chasser un peu tout ce qu'il peut trouver dans l'environnement. Alors on voit l'impact sur les abeilles, parce que les apiculteurs observent leur colonie et voient qu'il y a quand même un énorme impact, avec parfois des pertes de colonies complètes. Mais ça, c'est le sommet émergé de l'iceberg. C'est-à-dire on voit des choses que l'on regarde. Au niveau de l'entomofaune, c'est-à-dire le reste des insectes, dans toute la biodiversité en insectes qu'on peut voir à côté, on n'a pas vraiment d'observation. On sait qu'ils sont chassés, mais on ne sait pas à quel niveau. Donc à l'heure actuelle, on mène des analyses pour essayer d'estimer l'impact écologique des colonies de frelons asiatiques, mais on n'a pas encore de chiffres. Mais d'après les premiers résultats, il y a quand même un sacré impact, oui.
Alors justement, Éric Darrouzet, face à ce problème qui semble concerner maintenant quasiment toute l'Europe, est-ce que vous avez des moyens quand même de freiner la progression du frelon ?
Alors des moyens, là, au jour d'aujourd'hui, non, pas efficaces.
Ouais.
Comme on le disait à l'instant, la difficulté, c'est repérer les nids. Détruire un nid, c'est très facile. Ça, il y a plein de techniques pour y arriver. Mais c'est le repérage du nid qui pose problème. Donc on n'a pas encore ce levier-là. Il y a un autre aspect, c'est le piégeage. C'est ce qui est couramment utilisé. Mais le problème, c'est que tous les pièges qui sont sur le marché à l'heure actuelle ne sont pas sélectifs. Donc ils ont un impact sur les autres insectes, au même titre que le frelon, en l'occurrence. Donc nous, on travaille sur la mise au point d'un piège sélectif, justement, pour lever ce problème. Mais le piège, on a déjà mis au point un prototype qui est efficace, enfin, qui est très sélectif, Mais maintenant, on travaille sur d'autres aspects pour le rendre beaucoup plus efficace. Alors, je pense qu'on pourra le mettre sur le marché si je reste optimiste. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est pas avant 2 ans. Mmh. 2 ans, 3 ans.
Comment est-ce que vous faites pour n'attraper que des frelons avec vos pièges?
Alors, le design du piège est fait pour que, d'abord, les insectes vont rentrer dedans. Ils vont pas mourir. Ils vont pas se noyer dans l'appât. Et les insectes qu'on ne souhaite pas capturer ont l'opportunité de ressortir. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous les appâts qu'on utilise, hein, que ce soit des appâts à base de protéines ou à base de sucre, ne sont pas sélectifs. Ils attirent tout un parterre de divers insectes. Donc, un appât alimentaire ne convient pas. Donc nous, l'idée, si on veut rendre le piège encore beaucoup plus sélectif et encore surtout beaucoup plus efficace, parce que les pièges actuels ne sont pas vraiment efficaces, c'est de retirer l'appât alimentaire et faire un appât à base de phéromones dans des composés, des molécules volatiles qu'émettent les frelons pour communiquer entre eux. Et on étudie ce point-là à l'heure actuelle, c'est-à-dire trouver une molécule que va émettre un frelon qui va attirer ses congénères. Et dès qu'on aura mis au point cette molécule, on la met en appât dans le piège. Et là, on va attirer uniquement le frelon asiatique et en quantité. Et là, ça sera intéressant.
Donc en attendant, Éric Darrouzet, il faut s'habituer à la présence durable, invisiblement, de cet insecte sur le territoire européen. Et donc je signale ces travaux que vous avez publiés la semaine dernière sur l'analyse et la modélisation justement de l'implantation du frelon asiatique. Merci pour vos explications, Éric Darrouzet. Bonne journée.
Merci à vous aussi.
Et puis Axel, qu'est-ce qu'on se dit?
Je crois que c'est bonnes vacances.
Ben oui, bonnes vacances. Voilà. Donc reposez-vous bien et puis on se retrouve dans 2 mois pour la Lune de la Science et pour la rentrée de la Tête au Carré. Merci, à bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des dessins anatomiques datant du XVIIe siècle retrouvés dans les réserves oubliées de la Bibliothèque universitaire de santé à Paris, issus de la main de maîtres hollandais. Ces 253 dessins répartis sur 4 volumes sont un trésor d'art et de science qui devrait rapidement exciter la curiosité des historiens de l'art, mais également ceux de la médecine et de la science. La bibliothèque publie sur son site les numérisations effectuées pour authentifier ces originaux. Vous pouvez visiter notre page Facebook pour découvrir ces documents qui devraient être prochainement restaurés avant d'être exposé. D'immenses aurores au pôle de la planète Jupiter viennent d'être capturées par le télescope Hubble. Ces volutes très lumineuses et grandes, comme plusieurs fois la Terre, sont visibles dans l'ultraviolet. Elles sont dues à la rencontre de particules de haute énergie issues des vents solaires qui pénètrent l'atmosphère et entrent en collision avec les gaz qui la composent. Cette observation a été rendue possible par l'approche en ce moment même donc de la sonde Juno de la NASA qui devrait atteindre l'orbite de Jupiter dans le courant du mois de juillet. La photo recomposée de ces aurores est visible elle aussi sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et puis pour finir, si vous passez en Avignon cet été, notez la date du 18 juillet sur vos tablettes pour y voir la pièce Irrépressible de Kevin Case, tout entière consacrée au thème de l'addiction. C'est le 6e spectacle issu des rencontres binômes de l'INSERM, qui associe des scientifiques et des gens du spectacle, écrit à la suite de sa rencontre avec la chercheuse Perrine Roux, qui travaille à la réduction des risques liés aux conduites addictives. Vous pourrez donc découvrir ce spectacle de Kevin Case. Il est gratuit, mais attention, c'est dans la limite des places disponibles. Il faut vous inscrire donc pour le 18 juillet en allant sur binome.reza@gmail.com. L'adresse est en lien sur le site de La Tête au Carré.